ça pose la, le problème de l'histoire réellement vécue, ou de la vie réellement vécue, dit Proust, hein, si on écrit.
Oui.
La vie réellement. Alors ça veut dire que au moment où M. Flaubert, ou M. Proust, etc., se met à élucubrer la plume à la main, bon, ça veut dire multiplicité des sensations, multiplicité des réminiscences, multiplicité des accidents de mémoire involontaire, des multiplicités des associations, multiplicité absolument des résonances qui parfois viennent à la rime ou au jeu. C'est à ça que, c'est à ça que je m'occupe. Multiplicité des lectures parallèles, vous montrez ça très bien dans les carnets de travail de Flaubert, quelle somme de lectures invraisemblables. Hein, multiplicité éventuelle aussi des rencontres qui, comme par hasard, s'inscrivent tout de suite dans le texte qui est en cours. Parce que dès qu'on a commencé à écrire quelque chose, l'air magnétique qui s'ensuit font que, bizarrement, on trouve sur son chemin, si on écrit plus ou moins, selon les journées, témoignages vécus, les gens qui sont plus ou moins susceptibles d'entrer de plein pied, hein, dans votre écriture. Autrement dit, la fiction détermine une réalité à apparaître qui va faire redoubler. Donc voilà, il y a tout ça. Et en effet, c'est comme si, en effet, la vérité, comme dit Lacan quelque part, avait structure de fiction. Structure de fiction, c'est-à-dire une structure, en effet, génétique, qui fait que si vous vous mêlez de faire fonctionner le langage tout le temps, et un écrivain n'est rien d'autre, eh bien, en effet, l'espace, le temps, les êtres humains qui vous entourent, ou ceux qui arrivent tout à coup sur la scène, sont doués de propriétés étranges qui sont de devenir plus réelles du fait qu'ils entrent dans votre fiction.
Et c'est pourquoi, à mon avis, on peut difficilement écrire ça autrement que sous la forme d'une fiction également. Une fiction vraie, hein, ou une fiction cherchant sa vérité. Je crois qu'une des, enfin, un des éléments les plus, probablement les plus neufs de la critique génétique, c'est... Et peut-être en quoi, d'ailleurs, elle fait fracture par rapport à ce que pouvait être le monde de la critique dans les années 60-70, c'est la remise en cause, alors là, je dirais, volontariste et appuyée sur documents, de l'autorité du texte, de l'idée que le texte a un pouvoir hégémonique qu'on appelle vérité. Et il est vrai que ce que démontrent les brouillons, les manuscrits, c'est que le texte n'a pas le droit, est constitué d'une histoire qui lui interdit totalement de se donner autorité à être l'être définitif. Mais c'est en quoi je crois que ce mouvement de recherche de critique génétique est à la fois, comme on le disait au départ, une sorte de regard ethnologique sur quelque chose qui est en train de mourir, le manuscrit, soyons pas trop pessimistes, en tout cas en train de changer, et puis aussi quelque chose qui est en rapport avec un vrai ferment de pensée contemporain, parce qu'au fond, c'est une idée qui m'est venue alors de façon très, très nette, je l'avais plus ou moins à l'esprit, mais très nette en Égypte, il n'y a pas très longtemps. J'étais parti, après avoir fini l'édition du voyage de Flaubert, faire une série de conférences à l'université du Caire. J'ai vu là des choses très impressionnantes, une société francophone très puissante, hein, il y a 400 000 francophones en Égypte, une tradition un peu immobiliste francophone, mais plutôt libérale et plutôt, je dirais, littéraire et libérale. Et puis dans les amphis, dévoilée. Les filles qui arrivent avec le voile, plus le voile par le dessus le voile, plus les gants noirs, qui sont là quand même, et ces jeunes représentants de l'islam fondamentaliste sont soutenus chez les professeurs, chez les intellectuels, par des assistants, des jeunes profs, qui eux portent la parole de guerre, véritablement. Qu'est-ce qu'ont en commun tous ces gens-là? C'est de fermer les archives, de fermer les bibliothèques. On ne va pas voir l'histoire du texte parce que le texte, on le lit aujourd'hui comme il a été écrit il y a 15 siècles, comme il a été écrit il y a 10 siècles, et on ne va surtout pas voir comment ça s'est passé dans l'histoire. C'est pourquoi je crois que ces travaux de recherche, qui sont au fond très proches des travaux des gestes de l'écrivain, sont aussi des travaux qui sont notre façon à nous, aujourd'hui, je crois, la plus sérieuse, la plus juste, de faire barrage au fondamentalisme, aux intégrismes, à tous ces rejets, hein, de l'histoire qui nous menacent, mais véritablement. En fait, la question, c'est est-ce que les portes des bibliothèques resteront ouvertes ou non? Parce qu'il y en a qui disent, on a le texte, on peut le lire, et pour toujours, et c'est comme ça. Et derrière ça, il y a le livre, naturellement, avec un grand L. Hein, et c'est certainement pas la Bible, qui, elle, est l'histoire. C'est l'autre.
Je vais faire deux observations.
Non, juste un mot pour dire, est-ce que vous êtes totalement d'accord, par exemple, avec l'idée lancée par de Biasi, d'une certaine façon, de la non-clôture du texte? Enfin, est-ce qu'un écrivain peut être d'accord jusqu'au bout avec l'idée qu'au fond, un texte n'est qu'un état provisoire?
Non, je ne pense pas ça. Je crois qu'il y a un texte.
Ça, hein.
Non, je crois qu'il y a un texte, définitif, mais qui n'est aucunement un texte religieux, puisqu'il n'y a rien de plus arreligieux qu'un acte littéraire. Ce que vous venez de rappeler opportunément, puisque pendant que j'énonçais le vertige qu'il y aurait dans cette disparition des superpositions et du feuilletage du texte par lui-même, résultat de la technologie, se manifesterait comme par hasard, en effet, une poussée de fondamentalisme ou d'intégrisme. Ça a l'air paradoxal, contradictoire. Or, non, bien sûr. Et c'est de là qu'il faut se poser la question, si mal comprise aujourd'hui, de la convergence qu'il y a entre un intégrisme de la marchandise et un intégrisme religieux tout court. Deuxièmement, la question est immédiatement, corporelle, physique, mais enfin elle est sexuelle, bien entendu. Pas par hasard, si vous avez montré des femmes voilées s'accrocher au texte qui aurait brusquement un seul sens et par conséquent on fermerait tout ce qui pourrait le critiquer de l'extérieur, etc. L'effet est immédiatement politique et il n'y a pas lieu de ramener l'affaire Rushdie, enfin encore que, mais on peut constater partout, dans les pays islamiques, des condamnations de plus en plus violentes visant des écrivains, des éditeurs, sous prétexte que seraient publiés des textes qui inciteraient à l'impiété, à l'athéisme, à la pornographie, ça va jusqu'aux mille et une nuits, comme vous le savez. Ceci est au plus haut point intéressant, car, bien entendu, vous nous entendez à travers cela quelque chose qui agite sans fin la littérature, c'est-à-dire comment, en effet, une certaine jouissance atypique l'anime. Hein. Flaubert, ça se trouve partout, Proust aussi, je ne sais pas, recommencer la démonstration. Maintenant, je voudrais insister sur autre chose, c'est que dans le problème d'un écrivain qui, en quelque sorte, produit le champ magnétique de l'apparition du réel pour lui, mais ça va devenir le réel tout court avec le temps, parce que c'est là que ça aura été consigné, écrit d'une certaine façon qui dure. Il ne s'agit jamais, c'est ça que la critique génétique alors pourrait faire apparaître, il ne s'agit jamais à chaque instant que d'un conflit de littérature. Parce que l'écrivain n'est pas le seul à faire de la littérature, je dirais même c'est le seul qui la défait en essence. Tout le monde fait constamment de la littérature. En tant qu'écrivain, je n'arrête pas d'avoir devant moi des gens qui me récitent de la littérature, sous forme de clichés, de croyances, de réflexes sociaux, religieux, politiques, etc. Il récite une doxa littéraire. Et ce qui est intéressant, si l'on est écrivain, c'est d'écouter non pas tellement ce qu'il dit, ce qui est en général d'une affreuse banalité conventionnelle, familialiste, sociologique ou croyante, en ce que vous voulez, c'est d'écouter la façon dont ils le disent, plus ou moins convaincue, plus ou moins hésitante, plus ou moins retournant sur soi, savoir qu'il y a le retour du son, qui s'entend, qui ne s'entend pas, les gens ne s'entendent pas, vous savez. C'est ça qui est si frappant. Eh bien, dans les périodes de tyrannie, comme celle qui s'annonce, sous la double bénédiction de l'intégrisme marchand et de l'intégrisme religieux, la littérature est menacée, elle aussi, d'être réaccusée du pire des crimes, c'est-à-dire de relativité, de détachement, d'incrédulité foncière. C'est pour cela que, il y a 3 ans, quand j'ai proposé à certains de mes amis de faire un numéro spécial de l'infini sur Voltaire, certains avant-gardistes d'autrefois m'ont regardé avec des yeux tout ronds. Car comment s'intéresser à Voltaire si l'on a vécu toutes ces années si effervescentes, de savoir sophistiqué, etc. Eh bien, je regrette, nous en sommes là. il faut se réintéresser à Voltaire. Et c'est ça, un geste subversif aujourd'hui. D'abord parce que Voltaire est tout à fait inconnu. J'ai passé 2 heures avant-hier avec René Pomeau, qui vous est probablement très peu connu, pas assez, qui est le plus grand voltairien français, et nous avons discuté de savoir pourquoi, historiquement, les œuvres complètes de Voltaire, la biographie, la grande biographie de Voltaire en 5 volumes, ne se publie pas en France, mais à Oxford.
Oui, il y a toujours eu un côté anglais, hein, Voltaire, qui explique bien, mais je suis à 100% d'accord avec ce que
parce
vous dites,
que défendre Voltaire, oui. ça va être défendre tout le reste, vous comprenez. Très vite.
Ça a été aussi le cas au 19e, dans les
périodes. Et c'est Voltaire qui est surréaliste aujourd'hui, pas le surréaliste.
Cela dit, le programme que vous traciez pour la critique génétique, ça serait une sorte de Bouvard et Pécuchet élargi, enfin, ce que vous disiez sur j'entends la littérature. Non, j'entends. Je veux dire, avoir l'écoute de Flaubert
je pense que la critique génétique est justifiée dans son principe, puisque c'est un principe heuristique de découverte relativisant. Mm-hmm. Donc, voilà.
Alors, évidemment, il n'est possible que dans ça, c'est une des questions matérielles, brutes. Elle n'est possible que dans les sphères du patrimoine écrit où nous possédons, pour de bon, des traces. Soit En pratique, la rupture, pour parler de manuscrits modernes, on désigne, au fond, ce qui commence à exister au moment où le manuscrit n'est plus le livre. Il cesse d'être le livre, en gros, entre le XVe et le XVIIIe siècle, c'était très long. Il y a eu pendant très longtemps, quand même, une concurrence réelle entre le livre manuscrit recopié à l'ancienne, dans le monastère ou chez des scribes, et puis le livre imprimé. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où l'imprimerie existe et s'est imposée, elle fixe une notion complètement neuve, dont on ne cesse de reparler, notamment ici, le texte, qui n'existait pas avant. Hein. Le texte au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, n'a pas de sens, puisqu'il est à soi tout seul un ensemble de textes, une variance pure. Faut pas oublier qu'il y a plus d'un millénaire et demi entre le moment de la rédaction d'un texte de Platon, par exemple, et la première copie qu'on possède. Hein. Un millénaire et demi. Et on en possède naturellement des variances de toutes sortes. Alors, à partir du moment où le manuscrit devient l'autre du texte imprimé, naturellement, il devient quelque chose comme la trace d'un travail, et progressivement se constitue à la fois l'image de l'auteur, l'image de l'originalité, l'image du travail intellectuel, chose qui prennent sens, du XVIIIe à nos jours. Là encore, le XVIIIe est sûrement fondateur entièrement de notre modernité. Et dans cette énorme plage de temps, il y a des périodes très désertes du point de vue des matériaux. Il n'y a pas, enfin, actuellement, à notre connaissance, peut-être que ça ressortira, mais vraisemblablement non, il n'y a pas de manuscrits de travail antérieurs au XVIIIe siècle, ou de façon très très exceptionnelle. Il y a les manuscrits de Pascal, parce que c'était une œuvre manuscrite, hein, les pensées. Ça a été un objet de la philologie, évidemment, formidable, et c'est le départ de ces travaux de recherche. Mais il n'y a pas, ou il y a très peu, de manuscrits de travail anciens. On n'a pas, par exemple, de véritables brouillons de Laclos. Je me suis occupé l'an dernier de la programmation de l'exposition universelle de Séville où j'ai fait choisir des manuscrits à la Bibliothèque nationale pour donner une image de l'histoire de l'écriture littéraire, traitée en cinq étapes, en 5 moments, du 15e à nos jours. J'ai demandé, j'ai obtenu de la Bibliothèque nationale, grâce à l'histoire rendue, qu'on ait les manuscrits de Laclos. Comme symbole même du 18e, de notre littérature du 18e, c'est un manuscrit magnifique, extraordinaire, plastiquement complètement incroyable. C'est une écriture, je dirais, qu'on ne peut lire qu'à la loupe, qui est comme une série de traces de rasoir. Mais il y en a aussi, et l'autre du 18e sera ça, un manuscrit magnifique, plein de ratures. Là, c'est déjà un manuscrit de travail. Mais le Laclos, c'est de toute évidence un manuscrit définitif. C'est-à-dire qu'il y a eu derrière tout un matériau d'écriture qui se trouve absent parce que, vraisemblablement, désinvesti encore jusqu'au 18e, jusqu'au dernier tiers du 18e, où ça change, où ça se bascule, désinvesti d'intérêt. Il faut se présenter que tout ça est lié à des choses très matérielles, très, très pratiques. Par exemple, que l'imprimerie traditionnelle, avant d'être mécanisé, avant d'être industrialisé, était quelque chose qui détruisait le manuscrit. Si on possède peu de beaux manuscrits et peu de manuscrits de travail, c'est qu'il y a eu d'abord cette surprise extraordinaire quand est paru le texte imprimé, propre, beau, magnifique, qui a fait que l'écrivain ne voyait vraiment aucun intérêt à garder ces petites choses dégoûtantes qui avaient servi à le faire, ce texte. Et puis le fait que le compositeur dans l'atelier d'imprimerie, il bousillait complètement le manuscrit. Et si on possède aujourd'hui des manuscrits de travail et des manuscrits définitifs d'œuvres à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est que les auteurs ont fait copier leurs manuscrits avant de les donner à l'imprimeur. Alors, prenons donc par là l'initiative de conserver quelque chose comme pour une bouteille à la mer.
Vous serez d'accord. Vous serez d'accord avec moi que si on s'intéresse aux manuscrits pour en découvrir le sens, c'est parfait, mais que depuis quelque temps, et de façon tout à fait redoutable, on s'intéresse beaucoup aux manuscrits pour spéculer sur leur valeur marchande, en oblitérant tout à fait leur sens, et peu importe. C'est ainsi que vous pouvez acheter certains passages de Mozart. Vous voulez un bout d'Allegro, un bout d'Andante, je vous vends la moitié d'une symphonie, ou, par exemple, on peut imaginer que des manuscrits... Il y a un marché pour ça, qui est le même que celui des œuvres d'art, du mobilier, des bijoux, etc. etc. Donc, le manuscrit est devenu, lui aussi, quelque chose de spéculable et, par conséquent, en dehors de son sens.
Alors, j'aimerais, dans 30 secondes, donner la parole à la salle. Je voulais juste vous poser une question, Pierre-Marc de Biasi. Quand les manuscrits de, je ne sais plus quand, à nos jours, c'est qui nos jours à Séville?
Alors, c'est Pérec. On a pris Pérec pour des raisons essentiellement plastiques, parce qu'on voulait, c'était...
C'est qui le XXe siècle, c'est ce que je veux dire,
le XXe siècle, ça se termine, je dirais, plutôt sur l'esquisse du XXIe siècle. Là, il y a des objectifs qui sont politiques, qui me dépassent tout à fait de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la présentation de l'exposition impliquait aussi la présentation des différents paris qui correspondent à ces moments. Si vous voulez, c'est une exposition à deux niveaux, avec un niveau qui est strictement littéraire et manuscrit, et puis un niveau qui est maquette en dessous, et qui correspond verticalement à chacun des moments. Et disons que le deal, c'était que le dernier moment soit le nouveau pari, avec les grands projets, notamment la grande bibliothèque, notamment, alors du côté littéraire, effectivement, la présence de machines dans l'acte d'écrire. Et le manuscrit de Pérec était vraisemblablement de ceux dont on pouvait disposer, pas trop difficilement, celui qui était le mieux adapté à ce caractère ludique, jeu, mise en scène, visuel de l'écriture. Voilà.
Merci. Je voudrais maintenant, j'avais des questions à poser à Sébastien, en particulier une question rentrée sur Ponge, mais ça va peut-être revenir dans le débat. Je voudrais maintenant vous donner la parole, donc pour que vous interrogiez Philippe Solaire, c'est Pierre-Marie de Biasi. Voilà. Il y a un micro baladeur. Y a-t-il des questions dans la salle, des manuscrits?
Y a-t-il des questions à poser?
De la Genèse.
Moi, j'ai été, je voudrais dire, très sensible à une intervention de Philippe Solaire tout à l'heure. Et sur une certaine forme de biographie, voilà. Qui partait de, je crois, Vichy et
Vichy, l'Algérie, 68.
L'Algérie qui nous est un peu commune. Y a-t-il d'autres questions dans cette salle à ce sujet? Ah oui, madame, si vous voulez. Ah bon. Y a-t-il d'autres questions?
Oui. Non, mais peu importe le sujet, en fait. En tout cas, il faut que ce soit quand même soit à Solaire, soit à De Biasi.
À vous.
Ou à moi. Mais enfin, bon. Ou à Blaise, ou à quelqu'un dans la salle.
C'est peut-être à M. Solaire, parce que je crois que c'est lui qui a abordé ce sujet. C'est serré à propos de... Il y a beaucoup de choses que vous avez dites auxquelles je pense depuis ces deux dernières années. Je ne pense pas que... Pour ma génération, ce soit vraiment la Deuxième Guerre où on se pose la question où on était. Et je ne sais même pas si on se pose la question où on était quelque part encore.
Vos parents, vos grands-parents.
Voilà. Et à ces propos, aussi du mensonge total dans lequel on vit, et il me paraît qu'il y a beaucoup des romans et des auteurs, surtout au cours des années 80, qui abordent leur vie d'une façon à peine déguisé, à peine romancé. Tout au long, bon, il a eu femme, bon, il a eu l'amant, il a eu le livre brisé, il a eu l'ami qui m'a pas sauvé la vie. Et tout récemment, il a eu un livre qui a fait un tout petit scandale, je pense, c'était L'Esprit de Vengeance. Et dans ces livres-là, je pense qu'il a tout ça. Il y a, justement, on se pose la question où était mon grand-père, ce qu'il faisait, et justement, de créer une vie intéressante, qui peut-être ne l'est pas vraiment, j'en sais rien, et cette espèce de transparence, justement, à l'envers, où il veut montrer exactement sa vie telle qu'elle est. Et en poussant l'expérience un peu plus à bout que dans l'œuvre de Guibert, qui, à mon avis, elle, ressemble à des manuscrits publiés en vrac, puisque apparemment, quand on lit ses livres, il n'a pas apparemment des plans, il a juste une espèce d'esquisse de fiction qui est inachevée et tout ça. Tandis que dans le livre des Donner, il a quelque chose qui est un peu plus, bon, déjà, un refus de mettre des pseudonymes. Il y a une espèce de jeu de vérité poussé à bout et qui justement aboutit à une espèce de fiction à l'envers et une espèce aussi de tensions dramatiques qui aboutit au suicide donc d'Olivier Ricoeur. Alors donc c'est à propos de tout ça, je ne sais pas si cette biographie est la même dont on parle ici ou pas. Ça, un petit peu, c'est ce que je voulais vous demander. Si cette biographie-là, qui a commencé au début des années 80 et qui aboutit aujourd'hui à une génération de 35 ans, enfin, qui est, disons, enfin, qui est à l'avance, enfin, qui n'est pas la mienne encore, mais parce que c'est un petit peu ça ce que je voulais savoir. Si justement ces jeux de vérité, ces télescopages entre nos vies qui ne sont peut-être n'est pas intéressantes, va mener à parler de soi de plus en plus.
Je sais que vous avez le sentiment que tous ces textes sont venus après les textes où Solaire a fait ce même jeu que vous décrivez, non?
Enfin, je ne vois pas le livre d'Annie Ernaux.
Je ne vois pas le texte de Philippe Solaire comme étant une barre, quelque chose des fondateurs. Ça, je pense que ça appartient à ces mouvements aussi.
Je pensais surtout à Guibert par rapport à certains textes.
Guibert s'inscrit dans ces mouvements-là. Oui.
Vous voulez dire Hervé Guibert?
Oui.
D'accord, entendu. Très bien.
Solers, vous voulez répondre?
D'autres, oui.
Y a-t-il d'autres questions?
Oui, plutôt d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions?
Moi, je voulais vous poser, enfin, je pose ma question, mais...
Oui, ici? Oui, bien sûr. Attendez. Moi, je vais revenir sur ma question de tout à l'heure, oui.
Il y a des questions sur la scène, en tout cas.
Ce sera une question à Pierre-Marc de Biasi, qui, je le dis d'emblée, sera très mal formulée et un peu... hésitante. Il m'a semblé que vous opposiez, enfin, pour qu'on puisse dire, à Philippe Solers sur sur une question qui est, je dirais simplement, celle de la vitesse dans l'écriture et dans l'analyse. C'est-à-dire que Philippe Solers vise, je crois, à une écriture qui est aussi une critique, enfin, dans le même temps, avec un projet de vitesse. Votre projet de critique génétique, même s'il est fictionnel, reste scientifique, donc reste dans un décalage, disons, dans un bon travail qui est bon de long terme, de recul. Enfin,
c'est tout à fait vrai. Oui.
C'est en quoi finalement je m'interroge sur sa modernité, c'est-à-dire à la fois nécessaire comme ça a été très bien dit, parce qu'il retrouve un processus, je ne reviens pas dessus, mais en même temps, au moyen d'une structure, d'un dispositif qui est...
oui, vous avez raison.
Ancien.
Tout à fait, je crois que c'est, vous avez mis le doigt sur une chose qui est tout à fait juste, c'est qu'on a beaucoup dit des généticiens qui développaient un travail de bénédictin, et c'est tout à fait vrai. Je veux dire que
Il est clair que pour déchiffrer des manuscrits, il faut y passer du temps, que pour les classer, il faut y passer du temps, et que pour les interpréter, les trois choses se faisant en fait simultanément, il faut y passer du temps. Cela dit, carnet de travail de Flaubert, 1000 pages, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Bon, je pense que c'est si long que ça, finalement. Il y a tous les carnets de travail de Flaubert. C'est pas, cela dit, ce que vous pointez, c'est surtout la différence du fait que je suis du côté de la critique, de l'érudition, avec un tout petit peu de fiction, il y en a toujours. Et Soler, c'est du côté de la fiction, avec beaucoup d'érudition, beaucoup de critique aussi. Mais ce sont deux continents différents. À tel point différent que je passerai vraisemblablement pas toute ma vie à faire de la critique génétique, je vous le garantis.
Alors que cela n'a pas l'intention d'en faire, ça veut dire.
Non, mais
j'en fais en écrivant en quelque sorte.
Oui. Alors, cela dit, que ce soit pas, que ce soit un signe de non modernité, là, je crois qu'on peut vous apporter la preuve du contraire. Dans la mesure où c'est scientifique, ça avance à petits pas. Vous ne pouvez pas nier aux recherches de biologie ou d'astrophysique qu'elles sont modernes ou contemporaines, ou de génétique au sens biologique du terme, et elles avancent à tout petits pas, malheureusement, dans beaucoup de cas. Hein. Vous voyez, je ne crois pas que la durée soit un signe d'antiquité. Oui. Et puis même, ça serait antique que ça ne me gênerait pas du tout. Hein. Ce que je veux qu'on n'oublie pas, c'est que ce n'est pas de la philologie. Parce que la philologie reposait sur l'hypothèse du texte sacré, sur l'hypothèse du texte qui a raison, qui a autorité. Nous faisons le contraire, nous défaisons l'autorité du texte. Nous montrons que le texte n'est intéressant que dans sa levée de censure, dans son travail de déconstruction du sens, des conventions. Et ce qui est fascinant dans un brouillon, c'est de voir que peut coexister, par exemple, des logiques narratives totalement contradictoires. Que ce qui va finalement être, dans le texte définitif, une anecdote à peine scabreuse, était absolument sadienne, atroce, épouvantable dans le brouillon, et que c'est de ça que se nourrit le texte final. Bon, toute cette histoire tout à fait inavouable, hein, je veux dire que le refus qu'a eu une certaine tradition, un certain pouvoir de l'université de la génétique avant de l'accepter parce que ça marchait dans le public, elle vient avant tout de ça, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et là, je parle exactement dans le même sens que Philippe Soler, c'est tout simplement parce qu'on y voyait des viols, des incestes, à l'état brut, agissant dans l'imaginaire de l'écrivain qui crypte toujours sa vie. Ça, c'est une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, que j'avais envie de dire quand on parlait de cette question de biographie. Même le plus renfermé des écrivains, qui est moins qu'on l'a dit, hein, parce que Flaubert, par exemple, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui a passé une très grande partie de sa vie à faire des escapades aussi secrètes que possible à Paris, ou à faire venir en Normandie de quoi s'amuser. Beaucoup plus qu'on l'a dit. Il y a une idéologie qui a été rappelée par Soler tout à l'heure, qui est totalement celle de la Troisième République. Hein, et qui est totalement irréel par rapport à la vie amoureuse, par exemple, de Flaubert. Mais en dehors de ça, il est bien clair que les manuscrits sont la preuve aussi que pour des raisons très difficiles à évaluer, qui sont probablement le sens même hein, de ce qui nous était décrit comme rapport entre le bien vivre et le bien écrire, l'écrivain crypte. Les brouillons donnent la preuve absolue qu'une très grande partie des lieux-dits, des noms propres, des anecdotes recouvrent des choses d'ailleurs plus ou moins inavouables qui émanent directement de la vie de l'auteur. Et ceci pour un auteur qui faisait de l'impersonnalité une règle absolue. Mais l'impersonnalité, il ne faut pas croire du tout que c'est l'absence du moi. C'est au contraire la biographie, mais élevée à un état de puissance qui en fait la biographie du lecteur aussi. C'est tout à fait autre chose. Peut-être, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre...
Y a-t-il d'autres questions?
D'autres questions? Oui, bien sûr.
Post-scriptum à la question précédente. Non, non, je ne sais, sais pas, il y a monsieur, mais avant, il y a peut-être quelqu'un d'autre. D'accord. Vous ? Oui, allez-y, allez-y.
Alors, à propos de la relecture du manuscrit, j'aimerais savoir si, puisque le fait d'écrire non seulement un besoin personnel de l'écrivain, c'est une manière d'exprimer sa vie de soi à soi, plus que de soi au lecteur, mais aussi un fait de conscience, pourquoi s'apesantir longtemps sur des ratures, en fait, alors qu'on peut avoir l'œuvre parfaite, et puisque l'auteur a tout à fait conscience que son œuvre est sa vie. Comme Rousseau le disait dans Les Confessions, prenez ce livre, c'est ma vie.
Oui, c'est une belle question, mais qui repose le
retour
débat.
Retour à la case départ.
Entièrement, je vais vous donner une réponse très, très simple. Comment s'écrit un texte je n'ai pas tout texte, mais d'une façon globale, un texte du 19e ou du 20e, un texte romanesque. On l'a dit, par amplification. Mais ce n'est pas seulement par amplification. Si vous prenez... on arrive aujourd'hui à faire des schémas quantitatifs pour le démontrer. Ce qui correspond à une page de départ, de scénario initial ou de plan, si vous voulez, va... aboutir, par exemple, chez Flaubert, en moyenne, à 11 pages de texte définitif. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas passé une progression arithmétique qui va de 1 à 11, pas du tout. Il s'est passé une courbe qui, si je la décrivais dans l'espace, serait à peu près celle-là. Comme ça, et puis comme ça. Autrement dit, il y a eu une sorte d'amplification formidable du texte, comme un phénomène naturel. C'est pour ça que le mot génétique dans son rapport à la biologie n'est pas complètement délirant. C'est comme si l'œuf, quelque chose comme une germination, explosait complètement à un moment donné, et on a une courbe qui est presque asymptotique à une verticale. Et puis, vous avez un phénomène tout à fait différent qui intervient à un certain moment dans l'histoire du brouillon, un phénomène de bascule. C'est-à-dire que là, le texte, au lieu de s'amplifier, va progressivement s'arrêter en étale, puis se contracter, formidablement se condenser, et va disparaître une partie très importante du brouillon. Alors, l'ensemble de ce phénomène, il nous donne quoi? Il nous donne une capacité à comprendre dans le texte définitif tout un tas de cryptages qui seraient... pratiquement illisible ou totalement hypothétique à la lecture du texte tel quel.
Ouais, mais ça, c'est le fruit de la volonté de l'auteur. Sinon, il l'aurait mis à côté de l'œuvre.
Il nous l'a laissé, ce manuscrit. Il pouvait le détruire. Il y en a qui l'ont détruit.
Flaubert, souvenez-vous la citation que j'ai lue tout à l'heure. Flaubert dit « Je vais être enterré » avec un manuscrit, dans une attitude très ambivalente, être enterré comme un Égyptien, pour le coup, avec tout ça.
Un sauvage, c'est pas un Égyptien.
Comme un sauvage, comme le dernier des Mohicans, c'est vrai, absolument. Laissons les Égyptiens à Pierre-Marc de Biasi. Enfin, Flaubert, ça m'intéressait aussi. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, il y a un
autre, là. Ça, c'est l'appendice à la première question. Essayez de former une question.
D'accord. Ouais. Non, j'aimerais juste si Philippe Solas revenait sur les... Il y avait des moments où vous avez dit que aujourd'hui les maîtres étaient publicitaires et que ça mettait en cause la littérature. Puisqu'elle était forcément, il fallait qu'elle soit tendancieuse, on ne savait pas trop.
J'ai lu les directives des publicitaires aux écrivains.
Oui. Et après, vous êtes revenu sur...
C'est-à-dire des entrepreneurs les plus importants de la société dans laquelle nous vivons, de tout.
Et vous êtes revenu après sur le problème de l'intégrisme marchand et l'intégrisme religieux qui, en quelque sorte, mettait en cause la légitimité de la littérature. Mais si vous pouvez dire quelque chose... pour mieux expliquer ça, parce que ça me paraît...
Eh bien, je pense que c'est une convergence entre deux façons d'évacuer la relativité, l'esprit de critique, l'esprit de jugement et le sens génétique des choses. Par conséquent, si j'étais un tyran, qu'est-ce que je ferais? Je ferais comme tous les tyrans du monde, je décréterais que désormais l'histoire est terminée. Ça va bien comme ça. Deuxièmement,
Deuxièmement, j'essaierai que les esclaves désirent le plus possible leur propre servitude. Par conséquent, je leur donnerai tout ce qu'il leur faut pour les abrutir le plus possible. Voilà. Et troisièmement, en effet, j'essaierai d'interdire le plus possible, comme ça s'est trouvé dans des phases importantes de l'histoire, dans différents pays, dans différentes cultures, le plus possible la lecture, les bibliothèques, le souci de comparer à travers des livres la réalité, pour la simple raison que l'acte de lecture, comme d'ailleurs l'acte d'écriture, est un acte profondément individuel, qui donne de mauvaises pensées, qui peut éventuellement déclencher des fantasmes, des imaginations qui ne sont pas prévues par la régulation sociale, etc. Et pour faire ça, j'aurai un certain nombre de moyens à ma disposition. Voilà, c'est tout. Alors, tantôt c'est l'islam, tantôt c'est sacrée soirée.
Et tout à l'heure, Philippe Solers, je voulais poser une question. Peut-être que je l'ai un peu oublié, mais vous avez été extrêmement vif sur un certain sentiment de la biographie qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, Vichy, vous avez évoqué ça, non?
Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je
me trompe? Voilà.
Ouvertement.
Ouvertement.
Vous voulez que j'y revienne?
Je voudrais que vous y reveniez parce que c'est une chose qui me touche. Alors, je rappelle que je suis né en Algérie, qu'à 10 ans j'étais à Alger, oui, que toute ma famille était vichyste, sauf ma mère qui était résistante et mon père qui était à Londres. Oui, oui, à Londres, parlons français, comme vous savez d'ailleurs. Je suis revenu à 14 ans à Paris, j'ai découvert ce monde très bizarre, mais j'étais toujours aussi anti-vichyste. Alors, c'est vrai que ça a compté beaucoup pour moi. Donc, vous avez évoqué cette période, et puisque nous parlons de biographie, j'aimerais beaucoup que vous continuiez là.
Écoutez, très rapidement, je crois que le traumatisme que j'ai évoqué, qui s'appelle pour la France Vichy, mais qui a des perspectives oui. beaucoup plus larges, et consiste tout simplement dans les deux tentatives les plus énergiques pour fonder quelque chose qui allait faire table rase du passé, remettre en question toute une histoire et inculquer aux gens une nouvelle perspective historique. Donc ça s'appelle Hitler, ça s'appelle Staline, et ça s'appelle en France la révolution dite nationale. Tout ceci est probablement un phénomène tel que jamais dans l'histoire européenne, en tout cas mondiale, on aura vu un tel souci du collectif envahir toutes les branches de la société. C'est-à-dire que l'individualisme, par exemple, a été partout condamné très énergiquement, y compris par la suppression physique. Les périodes antérieures sont intéressantes, mais de courte durée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la terreur, la grande terreur qui sévit en France entre 92, 13 et 94. Je crois que ça aussi, c'est un tabou. Je me suis tenu à l'époque où les corps qui sont ici sont obligés d'en avoir des répercussions directes, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, soit par leurs grands-parents. Ça leur fait de gros problèmes, parce que parfois leurs parents leur ont menti, ou leurs parents ne leur ont rien dit, ou leurs parents leur ont dit des fariboles, ou leurs parents leur ont dit des demi-vérités. Et c'est très grave, parce que, comme le disait monsieur tout à l'heure, après coup, il faut reconstruire de façon très difficile la réalité. Je crois que ça n'est pas arrivé à des écrivains depuis, peut-être jamais, en tout cas dans l'époque moderne qui commence au XVIIIe siècle. C'est donc une époque de grands troubles, donc personnellement je parle beaucoup dans mes livres, puisque c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Mais je pense que par conséquent, il faut se demander dans les livres comment se passe pour les gens qui écrivent, cette reconstruction biographique, c'est-à-dire repose-t-elle sur des documents sérieux, sur des témoignages fiables, sur des sensations vraies, vécues, et à ce moment-là qu'ils nous les racontent. Parce qu'il est fort possible que l'on mette en vente des tas de fausses biographies, des tas de faux livres, des tas de livres qui n'ont aucun rapport avec la réalité vraie telle qu'elle a été vécue, des reconstructions imaginaires. Et tout ça crée un malaise très profond qui, encore une fois, est au cœur de la vie actuelle de notre société. C'est pour ça que je me suis permis de l'évoquer.
Bien. Dans ce sens, oui, d'autres questions?
Oui.
Oui, alors, madame, s'il vous plaît.
J'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur ce projet de roman autour des carnets, parce que je crois que c'est un peu le point de sauvetage. Je veux dire par là que finalement, le scepticisme qu'on peut avoir parfois par rapport à la critique génétique, c'est qu'elle aurait le sentiment d'établir un tout de l'écrivain. Or, précisément, il y a tout ce qu'on pourrait appeler l'interstice rêveur de la trace, quoi, je veux dire, qui est très important. Et je crois que... Il y a quelqu'un qui a travaillé dans ce sens il y a quelques années. C'était Barthes au Collège de France qui avait placé tout ça sous l'éclairage du fantasme, précisément, qui rejoindrait un petit peu ce que vous disiez. La perplexité que j'ai, c'est votre refus du texte achevé. J'aime bien cette expression de achevé d'imprimer. Hein. Je veux dire, il y a quand même aussi, peut-être dans l'écriture, à un moment donné, quelque chose qui est achevé sans être forcément définitif. Mais, alors, une petite remarque peut-être un peu plus méchante, enfin, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que la présence de manuscrits à Séville soit vraiment de l'ordre de la remise en vie du cadavre. Je me demande si ça ne ressemble pas davantage à une relique.
Je vous ai demandé qu'est-ce qu'il y avait à Séville, parce que j'étais persuadé qu'il n'y avait pas un seul écrivain vivant, et a priori j'en ai eu confirmation aussi.
Oui, non.
On est dans la religion de l'écrivain mort, toujours mort.
Il ne faut pas en déduire que c'est de la relique. Enfin, il est bien clair qu'il s'agit d'une exposition universelle.
Pas pour en faire trafic.
Oui,
j'espère.
Voilà.
Là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pour le montrer.
Je crois que c'est pour mettre en scène la dynamique d'une littérature qui va de la main, si vous voulez, au plomb. Hein. En gros, j'ai demandé des objets manuscrits, des objets bibliographiques, et puis des objets de l'Imprimerie nationale qui sont extraordinaires. Dans les coffres-forts de l'Imprimerie nationale, il y a les poinçons gravés depuis la Renaissance par les sculpteurs qui ont fait toute notre littérature, je veux dire les grands caractères des livres du 16e à nos jours. C'est complètement magnifique comme objet. Donc c'est cette mise en scène-là. Alors bien entendu, on ne donnera pas la possibilité aux visiteurs de comprendre comment Laclos a écrit, a raturé, ça c'est clair. Mais c'est Pedouzi qui fait la mise en scène, je pense qu'il mettra assez d'énergie pour éviter le côté reliquaire, enfin je le souhaite. Il y a toujours ces petits risques, c'est vrai. Mais bon, l'idée de l'interstice rêveur dont vous parliez tout à l'heure, il est totalement vrai. Hein, c'est en quoi, bien que chercheur au CNRS et revendiquant tout à fait et la liberté de penser et les moyens de travailler que ça donne, malgré les très maigres salaires que ça représente, je crois qu'il est exclu de vouloir transformer tout ça en science de la littérature. Ça serait reconstituer le fantasme d'une vérité du texte ou alors d'une vérité de l'avant-texte, qui n'est pas préférable. Non, je crois qu'il y a dans cette démarche quelque chose de scientifique, ça fait aucun doute. Il y a aussi quelque chose qui relève peut-être plus de l'art, au sens des arts libéraux, et dont toute la vocation est de remettre en cause la volonté d'hégémonie qu'il y a derrière le textuel. Quant au mystère, comme on pourrait dire... Oui, je parlais d'hégémonie du sens. Je crois que ce que montre le brouillon, c'est qu'il y a des logiques plurielles de sens, sans arrêt. Hein. Aucune, je dirais que le premier enseignement qu'on tire du déchiffrage d'un brouillon, c'est qu'il n'y a aucun geste d'écrivain qui soit explicable par une seule donnée. C'est jamais pour une raison purement psychologique ou purement socio-historique ou, purement analytique ou purement linguistique.
Écrivain du 19e. Hein, écrivain du 19e.
Oui.
Je m'excuse, non, c'est très important à préciser parce que.
Ah oui, mais
je crois que le fait de considérer.
Mais Joyce.
Nous sommes dans la doxa. Non, mais nous sommes dans la doxa 19e, c'est 20e, c'est-à-dire une doxa flaubertienne. En gros, c'est qu'un texte, c'est quelque chose qui s'obtient à partir de ces longs tâtonnements, de cette pluralité. Mmh. Mais il y a des tas de textes classiques dont on a nullement besoin d'imaginer. C'est pour ça que je parlais de Voltaire.
Ouais.
Dont on a nullement besoin d'imaginer qu'ils aient donné lieu à des brouillons fantastiques. Il s'agit d'atteindre le plus rapidement possible son objectif, qui est clairement déterminé. En général, c'est une littérature de combat. C'est une littérature qui coïncide, comme par hasard, avec des bouleversements sociaux importants, dont les écrivains sont conscients, et ils peuvent agir, d'ailleurs, directement. Ils écrivent des correspondances de combat aussi, ça existe.
Oui,
c'est de la littérature.
Il y a une correspondance de thriller où il n'y a pas de rature.
Et ils ne sont pas du tout dans cette perspective d'histoire stagnante, d'histoire résignée, d'histoire fermée, où ils sont obligés de se demander qu'est-ce qu'il faut dire, comment le chercher à le dire.
La rature n'est pas toujours stagnante. Hein. Non, il y a une rature.
Non, j'ai dit l'histoire, Ouais. Donc le combat devient moins clair. C'est un combat en quelque sorte enfermé, défensif. Enfin, on peut imaginer aussi des époques historiques où l'écrivain débouche directement en style tout à fait simple, et par la même aussi très élaboré, débouche directement dans la réalité.
Mais absolument, et c'est tellement vrai que je crois qu'on... Bon, il y a une histoire de la littérature qui se parle avant de s'écrire, hein, qui est celle des civilisations.
J'insiste moi sur le fait qu'on nous a beaucoup répété pour un grand nombre d'écrits, à mon avis assez médiocres, mais acclimatés par le marché, on nous a beaucoup, on nous répète beaucoup trop à mon avis, que la littérature est quelque chose de difficile, qui fait que les gens qui prêtent sont vraiment des saints ou des gens vraiment qui se sacrifient à une grande entreprise. La barbe un peu quand même.
Oui, non mais le travail que met en évidence le brouillon n'est pas... C'est de la jouissance, hein, beaucoup plus que du... L'idée de travail...
Non mais je veux dire par là que la moindre personne qui souffre a désormais une sorte de label littéraire, alors que le reste passe pour être pure superficialité et désinvolture sans...